Where is my love, une chanson de Cat Power.
Magnifique chanson évoquée dans l'essai création. Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux. Une chanson qui nous fait vibrer comme le livre de Nathalie Platte, d'ailleurs, qui est publié aux éditions Salicaire. Nathalie Platte, que vous connaissez sans doute. Elle est psychologue clinicienne, on l'entend à la radio. Elle est autrice, elle est chroniqueuse au devoir. Elle est enseignante aussi à l'Université de Sherbrooke. Et elle prend le temps de nous parler ce matin. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Hélène.
Alors, par où commencer ce livre que j'ai lu? Je l'ai même écrit parce que je ne veux pas me le faire voler. Hélène Denis, lu les 4 et 5 octobre 2024. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti. Je pense que je n'avais jamais ressenti ce genre d'émotion-là. Vous vous livrez, vous êtes authentique. On sent que vous ne jouez à rien. Vous êtes juste dans la vérité. Et ça, ça fait un bien fou. Comment vous présentez votre livre, Nathalie, au titre inspiré d'ailleurs d'une chanson de Richard Desjardins? Laquelle déjà?
Akinivi sur les derniers humains.
OK.
Ben d'abord, ça me fait vraiment plaisir ce que vous venez de dire par rapport à mon écriture. Comment je le présente? Je le présente toujours avec une certaine fébrilité. Ça me surprend encore. Il y a 5 minutes, j'étais pas nerveuse. Dès qu'on se met à parler du livre, je pense que je tombe tout de suite dans cette vérité-là dont vous venez de parler. Mm-hmm. C'est pour ça que ça me touche. C'est une histoire qui est très proche de moi. C'est le récit, en fait, de mon premier amour. Donc, un jeune garçon que j'ai rencontré quand on était adolescent et avec qui j'ai vécu les grandes élévations amoureuses de l'adolescence au moment où on ne se protège de rien. Et le jeune homme en question a glissé là, tranquillement au début de l'âge adulte vers la psychose, en fait. Et puis, notre lien ne s'est jamais vraiment rompu. Donc, c'était plus mon amoureux, mais on gardait toujours contact. Et jusqu'à un moment où il a disparu. J'ai commencé à écrire à ce moment-là. Donc, j'étais déjà, moi, avec celui qui deviendrait mon mari. J'avais déjà un fils. J'étais ailleurs dans ma vie. Mais sa disparition me troublait tellement. Et surtout que on l'a jamais retrouvé, en fait. Donc il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de deuil
possible,
réel à faire.
Ouais.
Oui, un corps que je connaissais par cœur. Toutes ces impressions là qui restent de nos premières rencontres amoureuses. Et aussi tout ce que ça m'a appris, en fait, de côtoyer la folie très jeune comme ça. J'ai commencé à lui écrire une lettre et voilà, c'est comme ça que c'est devenu un peu cet essai-là. On dit essai création parce que j'ai aussi une réflexion critique sur la pratique de la psychothérapie, sur la clinique, sur l'absence de prise en soin finalement de ces gens-là qui sont réellement souffrants, les gens qui sont qui sont fous. J'ose le dire, le mot fou aussi, je me réapproprie le mot fou parce que je le trouve encore beaucoup plus poétique que le mot malade mental. Je suis un peu comme Michel Foucault là-dessus. Je préfère le mot fou que je trouve beaucoup plus dense.
Et la folie vous a toujours inspiré. Est-ce que c'est depuis cette rencontre-là avec cet homme-là que vous ne nommez jamais, cet adolescent-là?
Oui. En fait, je pense qu'on a tous un petit peu de folie en nous. C'est aussi ça, une des propositions du livre. Je pense que une des citations en exergue, là, c'est un extrait d'Alice au Pays des Merveilles, qui est mon conte préféré, dans laquelle elle descend, là, en suivant le lapin blanc, puis le chat lui dit, nous sommes tous fous ici. Puis elle dit, non, moi, je suis pas folle. Il dit, tu serais pas venue ici si t'étais pas folle.
Ouais.
Je pense qu'on a tous, effectivement, à réhabiliter une part de folie en nous. Moi, je pense que nos passions sont folles, nos passions amoureuses, que c'est pas forcément négatif. Et je crois que si on arrêtait de psychopathologiser toutes les parties de nous qui sont un peu irrationnelles, qui sont un peu tout croches, qui sont un peu chaotiques, il y aurait moins un schisme, justement, entre les sains et les malsains. Peut-être qu'on pourrait un peu réintégrer ces gens-là qui, actuellement, sont dans nos rues, sont sans-abri ou font les tables, un peu pas les tables, mais les portes tournantes de la psychiatrie. Je crois qu'on a une réflexion collective à faire par rapport à la folie puis à la place qu'on lui donne dans notre société hyper rationnelle.
Et Nathalie Platt, est-ce que ça a été une décision difficile de vous lancer dans l'écriture de ce livre-là parce que vous vous racontez de façon très intime, très personnelle? Mm-hmm. Oui, mm-hmm. ça s'entrecroise avec votre pratique de psychologue, de psychanalyste mm-hmm. ou de psychologue?
Psychologue
oui. clinicienne,
oui,
c'est
oui.
ça.
Oui.
Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez hésité avant de publier?
Non.
Non.
j'ai commencé à écrire ce livre-là avant de savoir que j'étais capable d'écrire. Hein. Ça fait 11 ans, en fait. Puis, ben, c'est sûr que je pensais pas que c'était publiable. Là, si je
ah,
vous
non.
Tout, non, j'avais un rapport quand même assez critique avec ça. Je trouvais pas ça très bon. Ça a pris vraiment le regard et je dirais l'approbation très investie de Nicolas Lévesque, mon éditeur, qui est aussi psychanalyste mm-hmm. Et écrivain, pour que j'y croie. Je pense que les doutes sont arrivés après. Je me suis lancée. Moi, on le voit aussi dans le livre. Hein, je suis un peu quelqu'un qui se lance puis qui se protège pas beaucoup. Ça m'a pas toujours servi, mais ou ça m'a aussi servi parfois parce que ben je me lance. Après, quand j'ai su que ça allait vraiment exister, ah ben là j'ai eu de l'angoisse. quand c'était déjà parti dans les presses, là j'ai fait oh mon Dieu, ça va vraiment exister. Les gens vont le lire et tout ça. Je pense que ça explique ma fébrilité quand j'en parle. Je sais que je me livre beaucoup dans le livre, mais j'ai tellement aussi des super beaux moments depuis qu'il est lancé. Là, j'ai un très bel automne, vraiment.
Bien, c'est tant mieux et très, très mérité. Alors, est-ce que ben, vous vous sentez toujours fébrile et anxieuse, mais en même temps, la réception est bonne? Est-ce que vous comprenez oui. comment ça se fait que les gens sont si émus? En tout cas, moi, après deux pages, j'étais émue. Est-ce que c'est normal?
Oh. Oh. Je ne sais pas si c'est normal, mais ça me fait plaisir. Je crois que j'aime pas bien ben le mot normal de cette façon.
Ouais, je sais.
Je trouve ça bien beau, l'émotion. Je ne sais pas pourquoi les gens l'aiment. Ça, c'est quelque chose qui est un mystère pour moi. C'est pareil dans les chroniques. Hein. Des fois, j'écris des chroniques où je les trouve vraiment bonnes, puis elles passent complètement sous le radar. Puis d'autres fois, j'écris des chroniques qui me viennent plus facilement, je dirais. Mm-hmm. Puis ça a une grande réception. C'est sûr que je trouve que la vulnérabilité en ce moment, on dirait qu'on a besoin de lire des textes écrits par des gens qui assument une certaine vulnérabilité. Donc, comme si ça nous donnait le droit à la nôtre. Je pense que de nous rebrancher sur le cœur, ça fait du bien. Puis je pense que les gens aiment ça quand il y a les deux en même temps, c'est-à-dire de la réflexion et du cœur. Mmh. Moi, c'est le pari que j'essaie de faire. J'essaie de dire, hey, on peut dire des choses là, quand même, en tout cas, qui essaient d'être intelligentes, et en même temps ressentir, éprouver, même se laisser traverser, renverser. Et puis, ça fait juste nous des humains. Puis, il n'y a rien de grave là-dedans. Ça, c'est mon intention. Et puis tant mieux si elle est reçue comme telle.
Elle est comprise, elle est ressentie. Et Nathalie Platt, il y a des choses que vous dites sur votre façon de pratiquer peu orthodoxe, qui une façon qui sort des sentiers battus. On aimerait bien aller en consultation avec vous et votre Golden Retriever. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous nuire aux yeux de votre ordre? Est-ce que vous avez déjà eu des commentaires depuis la sortie du livre?
Non, j'ai pas eu de commentaires. Puis non, ça m'inquiétait pas vraiment, ça, cet aspect-là, parce que il y a rien dans ce que je fais qui n'est pas dans mon code de déonto. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est plus des pratiques, je dirais, qui sont plus répandues qu'on ne le croit. Mais il y a une certaine persona, je vais le dire comme ça, qui est associée au psy dans l'espace public que moi, effectivement, j'essaie de déconstruire un peu. Mais je le faisais déjà beaucoup dans mes chroniques, ouais. Donc je n'étais pas vraiment inquiète par rapport à ça. Est-ce que je vais être jugée peut-être par certains de mes collègues? Ça se peut. Est-ce que je vais déplaire peut-être à une certaine frange? Ça se peut aussi, mais ça, je vis quand même assez bien avec ça. Mais du point de vue de l'autorité, j'ai pas été vraiment inquiète. Souvent, on va projeter hein, même sur notre ordre professionnel plus de sévérité qu'il y en a. Là, en réalité, ce sont des gens qui veulent qu'on respecte des balises, puis qu'on reste dans le respect, puis qu'on reste dans le respect de notre éthique, mais ils sont pas là à regarder si on offre un café à nos patients, si c'est grave, là. Ils vont plus vérifier qu'on maintient une distance qui permet le travail, en fait. Puis moi, ben je pense que notre profession elle a à comment je dirais, à faire attention de ne pas devenir justement trop technique. C'est quand même une profession qui s'enchasse dans le souci de l'autre.
Oui.
C'est une profession qui a 120 ans, là. Je veux dire, avant ça, on écoutait les souffrances de la condition humaine autrement, par l'Église ou par la philosophie et tout ça. Donc, moi, c'est juste c'est ce canal-là que je veux garder vivant, c'est-à-dire que la psychologie, c'est d'abord et avant tout une sœur des humanités, philosophie, sociologie, histoire, psychanalyse, théâtre, littérature. C'est pas juste une science. C'est une science, mais c'est aussi une sœur des savoirs issus des humanités. Donc, moi, je porte ce bout-là, disons, du spectre.
Et qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que, vous pratiquez auprès de personnes qui ont les moyens de se payer une thérapie? Et qui sait, s'il y a beaucoup, beaucoup de personnes défavorisées, vous parliez des gens dans la rue qui auraient besoin de consulter et qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas d'argent. Et ça doit être frustrant à la longue.
Bien ça, là, on est beaucoup de psy en souffrance par rapport à ça, j'ose le mot. Moi, j'essaie de pas être trop critique par rapport à mes collègues parce que c'est vrai qu'on a un peu quitté le réseau public. C'est pas les collègues que je vais blâmer ici, mais c'est sûr qu'il y a un problème, il faut qu'on se questionne. Le réseau, il est un peu inamical pour notre profession, puis vraiment pas pour des questions surtout financières. Moi, j'ai pas quitté le milieu scolaire pour des questions financières, mais pour des questions de pratique de mon art. Si je suis condamnée à faire seulement de l'évaluation cognitive, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'aider. Donc, c'est sûr qu'on se réfugie un peu au privé. Mais on commence à avoir des belles initiatives, notamment des cliniques qui vont faire des tarifs ajustés qui vont charger un peu plus cher à des gens qui ont un petit peu plus les moyens ou qui ont des assurances pour pouvoir faire circuler et offrir des séances. C'est le cas là, à ma clinique. C'est ce qu'on fait, offrir des séances à 10 $, à 15 $. On voit là qu'il va y avoir une prochaine ère. Les psys ne vont pas se contenter, je le crois en tout cas, de rester inaccessibles comme ça. Puis l'Ordre travaille très fort aussi sur la question de l'accessibilité. Il faut qu'on réfléchisse collectivement à ça. Là. Ça peut pas rester aussi séparé. Là.
Non, alors il y a de l'espoir. Mmh. C'est encourageant de vous entendre. Oui. Le garçon, parce que vous le nommez pas, il est toujours présent en vous. Et vous dites à un moment donné, je j'ai pas cité exactement la phrase, là, que l'adolescence, les amours adolescentes ou adolescents, ça marque plus qu'on pourrait le penser.
Oui. Ben moi, je pense qu'il y a plein de gens là, qui nous écoutent puis qui vont être d'accord avec nous. Là. On a sous-estimé beaucoup cette tranche-là, je trouve, dans la psychanalyse, notamment en étant très fixé sur les relations précoces, le 0-5 ans, là, pour dire « Ah, c'est là que tout se joue. » Et...
Parle-moi de ta mère, parle-moi de ton père.
Oui, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ton 0-5 ans? Mais puis c'est très, très important. Là,
ouais.
Tu dis, mais moi, je pense que tout se rejoue à l'adolescence. Surtout quand on ose justement ne pas trop se protéger. Je pense que c'est un moment où le système hormonal aidant et tout ce qui se passe sur le plan affectif, on est en constante transformation entre 12 et 17 ans. Là. Moi, j'ai un fils de 13 ans. Il n'y a rien à voir avec celui de 12 ans. Rien
ah,
à
non.
voir. il n'aura rien à voir avec celui de 14. Donc, cette transformation-là constante, mais avec une certaine confiance plus grande que dans le 0-5 ans, justement, pour moi, tout se rejoue et c'est là qu'on a nos souvenirs qui s'impriment au niveau du corps. Il y a tout le développement de l'éros là, qui va se passer souvent à ce moment-là. Ben moi, je pense que je suis pas la seule à être profondément marquée par ces premières rencontres-là. Puis qu'on devrait y faire une plus grande place en psychothérapie.
Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. On dirait que ça détermine le reste dans nos relations amoureuses. Là, ça compte beaucoup. Et vous écrivez « Adorer le mot « absence ».
Oui.
Pourquoi?
j'aime vos questions. C'est des grandes questions. L'absence, c'est un mot qui est sous-estimé parce que souvent, il va avoir une connotation négative, mais... en psychanalyse, notamment lacanienne, on va dire quelque chose comme toutes nos élaborations symboliques, tout notre langage va quand même venir de ce qu'on place dans le lieu d'une absence. Par exemple, Winnicott, qui est un grand psychanalyste, va dire, ben, la doudou, là, l'objet transitionnel, le premier moment où on va créer quelque chose, où on va utiliser notre créativité en tant qu'humain, c'est pour survivre à l'absence de la mère. On va dire, ben ma mère est pas là, ben là cette doudou là, cet objet là, un peu baveux là, pas beau là, ben ça va être ma maman. Et c'est la, moi je trouve ça
l'objet
magnifique.
Consolateur.
Oui, l'objet transitionnel qu'on va appeler la doudou. Mais la doudou, c'est notre premier acte, mais on en fait tout plein après. Ça va devenir ultimement la culture. C'est notre acte de langage. C'est ce qui nous distingue, nous, des animaux. Là, c'est, on est la seule espèce qui a besoin du langage pour traverser l'existence. À ce point-là, disons. Et tout ça part quand même toujours un peu d'une absence. À partir du moment où on est, ben on est séparé de notre mère et puis ben le reste de l'existence, on va toujours comme avoir des moments de grâce où on va être en fusion amoureuse avec quelqu'un ou avec notre enfant. Mais de manière inévitable, on va avoir à élaborer un peu de son absence, que ce soit pour la journée, pour le mois ou si on se sépare ultimement. Donc, moi, je pense que mon travail, c'est beaucoup d'aider les gens à élaborer leur absence. L'absence d'amour, l'espèce d'idéal d'amoureux qu'ils n'ont jamais vraiment totalement.
C'est un lien avec le deuil?
Toujours un peu. Oui, je pense que tu sais, la vie, c'est un long deuil, mais ça peut être un deuil heureux. C'est
un
pas
deuil heureux.
Négatif. Oui.
Est-ce que vous considérez que votre deuil est heureux par rapport à ce que vous avez vécu avec cet homme-là qui est disparu et que vous n'avez jamais plus vu, là?
Oui, bien, l'écriture a été vraiment salutaire. Ça m'a surprise à quel point, parce que moi, c'est quelqu'un là, à qui je rêvais hebdomadairement. Ah, oui. Il était très présent encore, puis c'était étrange. Puis même avec mon psychanalyste, on se disait, mais pourquoi autant d'importance? Puis je sais pas si c'était pour me pousser à écrire. Des fois, je me dis qu'il me hantait pour me pousser à faire ce qui me comble. J'aime me raconter ce genre d'histoire. Mais maintenant, je dirais que c'est ça, maintenant quand l'objet livre est sorti, puis on a eu un très, très beau moment aussi à Sherbrooke au lancement où toute sa famille est venue, où on a pu, je pense, vivre un genre de lancement funérailles en tenant un objet livre là, qui nous rappelait sa présence. Pour moi, il y a eu des grandes boucles qui se sont faites à ce moment-là. Puis j'aime pas dire qu'on fait nos deuils. Moi, j'aime bien les garder ouverts, tous mes deuils. Mais disons qu'il n'est pas, il n'est pas malheureux du tout, ce deuil-là.
Et pensez-vous que cet homme serait, je sais pas, comment vous pensez qu'il aurait perçu votre livre?
Ah là là, ben, je pense que il m'aurait critiqué doucement comme il faisait là. On était capable de se traiter de niaiseux là, comme on dit quelquefois dans le livre. Mais je pense qu'il aurait aimé aussi la part d'absolu qu'il y avait dedans. Parce que c'est ce que je voulais aussi faire. La psychose, c'est très très dur, c'est très pénible, c'est très malheureux. Mais il y a aussi des moments absolument magnifiques. Souvent dans ceux qui précèdent, malheureusement, là, l'installation réelle de la maladie. Mais c'était quelqu'un qui était un grand artiste, très, très intelligent et qui avait une sensibilité. C'est des êtres très poreux par rapport au monde. Donc, il m'a ouvert les yeux sur tellement de réalités humaines que lui percevait là, sans aucun filtre, mais d'une façon beaucoup trop exagérée. Mais quand même, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'il disait. C'était quelqu'un qui avait un délire écologique là, en 1995. Là.
Ouais.
Donc, je veux dire, on appelle ça la lucidité maintenant. Mm-hmm. Là, oui. Donc, prophète psychotique, des fois, on ne sait pas. Des fois, je me dis qu'on a des tonnes de prophètes dans nos rues en ce moment et qu'il faut revoir notre rapport d'amour avec ces gens-là.
Vous vous considérez chanceuse de l'avoir connu?
Oui, ouais. Vraiment. Oui, vraiment.
Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, c'est la chanson que j'ai choisie parce que vous en parlez aussi dans votre livre, Nathalie Platt. Et je trouve que ça vous décrit bien. Je voulais encore une fois vous féliciter pour ce livre qui est profondément original, profondément bouleversant. En tout cas, moi, mon plexus a été atteint. Tous ceux et celles qui ont connu l'amour, qui ont eu cette chance-là, il y a du beau et il y a du moins beau. Mais je pense qu'on ne changera pas nos vies, même si quelquefois c'est... Ça donne des grands chagrins.
Oui. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci, Nathalie. Et puis, on vous verra certainement dans tous les salons du livre.
Oui, Salon du livre de l'Estrie, Salon du livre de Montréal et On projette d'aller au Salon du livre de l'Abitibi aussi parce qu'il y a une grande place à l'œuvre de Richard Desjardins. Là, tout
ah, absolument. Il serait con... Je suis certaine qu'il irait. Bonne journée. À la prochaine,
merci
j'espère.
Aussi, au revoir. Merci.
J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie du cours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour. Et dessous du lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une proie deviendra ton vautour. Alors que fais-tu là, enfermé dans ta tour? Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour...